Rouge.
6h, 7h. Les petits matins de France Culture. Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La rupture entre Londres et Bruxelles sera effective à minuit ce soir. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne en janvier, mais aujourd'hui la période de transition s'achève. C'est la fin de la saga du Brexit qui aura duré 4 ans et demi. Un accord commercial a été trouvé in extremis la semaine dernière et signé hier par les deux parties. Londres quittera le marché unique, l'union douanière et le programme d'échange d'étudiants Erasmus. En pleine pandémie de Covid-19, la France vaccine 10 000 fois moins vite que l'Angleterre, estiment les députés LR. Damien Abad et Éric Ciotti demandent l'audition en urgence du ministre de la Santé, Olivier Véran, pour l'entendre sur la stratégie de vaccination du pays. À leurs yeux, elle fait figure de bonnet d'âne en Europe. 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir en France pour faire respecter le couvre-feu en se réveillant du nouvel an. Emmanuel Macron présentera ses vœux à 20h, allocution qui sera retransmise sur France Culture, suivie des analyses de la rédaction. Angela Merkel, elle, a déjà présenté ses vœux. Ces jours sont des temps difficiles pour l'Allemagne et cela va durer encore un bon moment, a prévenu la chancelière allemande. 32 000 personnes sont mortes de ce coronavirus d'après les autorités sanitaires. Après 7 ans de pourparlers, l'Union européenne et la Chine ont trouvé un accord de principe hier sur les investissements, accord controversé. Pékin promet d'offrir un accès sans précédent aux entreprises européennes tout en s'engageant contre le travail forcé. La signature officielle n'est pas pour tout de suite. Tout de suite, le monde vivant, Bruno David, aujourd'hui, le gui, une imposture végétale.
Mais ce type-là est une vraie sangsue. Tout cela pour signifier que le type en question cherche à nous soutirer de l'argent, ou plus généralement qu'il nous colle de trop près sans que l'on arrive à s'en débarrasser. Bref, un parasite. Contrairement aux apparences, cette chronique n'est pas consacrée à la sangsue, mais à un autre parasite, au comportement tout aussi désagréable pour son hôte, qui, lui, jouit d'une bonne réputation, le gui. C'est curieux. Personne n'a pensé à qualifier un profiteur de « gui ». Pourtant, le phénomène est le même. Tout le monde a aperçu ces boules bizarres qui se révèlent en hiver à la cime des peupliers lorsque leurs feuilles sont tombées. Le gui blanc, Viscum album, est une plante parasite qui ne présente pas de racines, mais absorbe la sève de son hôte par des organes qu'on appelle des suçoirs. Le gui est bien une sangsue, au sens figuré bien entendu. Les suçoirs se ramifient sous l'écorce, sans tuer les cellules de l'hôte, et l'accroissement du bois en épaisseur finit par les englober. Les cernes du bois permettent alors d'estimer l'âge de la présence de gui, qui peut atteindre 35 ans. En réalité, le gui est un hémiparasite, parce que s'il profite d'eau et de sels minéraux issus de la sève de l'hôte, il est tout de même capable de faire sa photosynthèse, ses feuilles étant fonctionnelles. Ces feuilles, justement, persistent jusqu'à 2 ans, ce qui fait qu'un buisson de gui est vert toute l'année. Cette permanence de vert, alors que son hôte semble mort durant l'hiver, a valu au gui le symbole de vie perpétuelle chez les druides gaulois. Le gui blanc parasite environ 120 espèces d'arbres et d'arbrisseaux, jamais les hêtres ni les platanes, et exceptionnellement les chênes. C'est sans doute pour cela que les druides accordaient une grande importance au gui des chênes, qui, récolté à l'aide d'une serpe en or le 6e jour du mois lunaire, constituait un gage d'immortalité. Goscinny et Uderzo ont immortalisé cette légende dans l'album La Serpe d'Or, où le druide Panoramix a cassé sa serpe. Événement gravissime, car le gui, pour détenir un pouvoir magique, doit être cueilli à l'aide d'une serpe en or. Le village allait manquer de potions magiques. On constate que, loin d'avoir la connotation négative du parasite, le gui était paré de vertus médicinales et miraculeuses par les Gaulois. Il neutralisait les poisons, assurait la fécondité des troupeaux, guérissait tout. Plus près de nous, en Europe, lors des fêtes du jour de l'an, la tradition est de s'embrasser sous le gui. Au XVIIIe siècle, les jeunes filles anglaises devaient faire très attention à qui elles accordaient leurs baisers, mais surtout où elles les accordaient. Car si c'était sous le kissing bowl, la boule à baiser, il était dit qu'elles seraient mariées dans l'année. Les analogies sont parfois impropres, mais elles sont surtout injustes. Et la pauvre sangsue peut à juste titre se sentir flouée par le gui qui accumule les signes de bonne réputation. Un vrai paradoxe, car en plus, les feuilles, l'écorce et les baies du gui sont toxiques.
Matière grise et café noir, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. J'espère que vous allez bien avec tout ce qui nous arrive. En tout cas, ce matin, pour bien commencer la journée, on va écouter de la bonne musique et des chansons d'amour. Le chanteur Jean-Louis Murat avait eu la bonne idée de venir nous voir avec son dernier album, le 20e déjà d'ailleurs, Baby Love, c'est le titre de l'album. Il avait donc eu la bonne idée de venir nous voir quelques jours seulement avant la décision du confinement. Jean-Louis Murat dans le Réveil culturel. C'est parti, et pour commencer, un extrait de son dernier album Baby Love.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Jean-Louis Murat.
Bonjour.
On écoute Rester dans le monde.
Oui.
Et on discute après.
D'accord.
Vingt un coup pour ne pas l'épouser. Puis un coup pour réveiller. C'est quelque part à nous. Cajoler le sort, puis
Vraiment le même timbre de voix, Jean-Louis Murat. Comment vous faites ? Votre voix n'a pas d'âge. Juste pour m'en assurer, j'ai réécouté quelques-unes de vos anciennes chansons, Le garçon qui maudit les filles, Foire à la mode, Le môme éternel, et vous conservez vraiment le même timbre. Comment vous faites ? Comment vous la travaillez, cette voix ?
Si que je la travaille pas, ça doit être ça, non, vraiment, je peux pas dire que je travaille ma voix, non, non. Bah, c'est bien mystérieux pour moi, mais j'ai pas d'explication, je sais pas. Bah, souvent je suis gêné parce que je trouve que j'ai la voix d'un timide et ça, et je trouve que ça limite trop ce que je fais. Voilà. J'ai du mal à sortir intégralement les mots. J'ai l'impression de sortir les mots à 80% de la bouche.
Et pourtant, vous chantez comme vous parlez.
Ce qui est fâcheux pour être chanteur, c'est fâcheux pour un chanteur, hein, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai l'accent auvergnat aussi et puis j'ai une sorte de, ça traîne un peu. J'ai aucune des qualités de base pour faire un chanteur, je crois. Mais je fais quand même le chanteur.
Pourquoi vous dites ça ?
Non, je sais pas. Si j'entends, je sais pas. Julien Clerc ou Caruso, je me dis que je sais pas chanter.
Vous avez déclaré il y a 2 semaines aux Inrecuptibles quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous dites encore plus que le regard, la voix est notre miroir.
Ah oui ? Vous n'êtes pas étonné de ça, vous, un homme de radio qui avait une voix qui est un vrai miroir. C'est, on se fait une idée de vous-même. Le matin tôt, en préparant le petit déjeuner des enfants, on se dit que vous avez une voix géographique aussi. Vous pouvez vous poser la question à vous-même. C'est très étonnant, ça. Certainement beaucoup plus que dans le regard, par exemple. Là, je vous regarde et si je vous écoute, je sais beaucoup plus de choses sur vous en vous écoutant qu'en vous regardant.
Pour parler des chansons d'amour qu'il y a dans cet album, c'est vraiment l'amour dans tous ses états, hein, c'est-à-dire l'amour qui nous enchante, puis les déceptions amoureuses, et puis l'amour qui revient, qui nous réenchante.
C'est ça qui est intéressant dans l'amour, non ? C'est une sorte de va-et-vient. Enfin, ce qui me semble-t-il, pour moi, maintenant que je suis un grand garçon, je vois bien. Ce qui est très mystérieux, c'est comment l'amour naît, et comment il meurt, et comment il renaît. Et j'ai toujours trouvé ça, depuis l'enfance, sûrement, de trouver très intéressant. Peut-être une pratique de... Peut-être les enfants de divorcés sont comme ça, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi les gens se sont aimés, et après ils ne se sont plus aimés. Et j'ai beaucoup chanté que ça, à vrai dire.
Parce que vous l'avez vécu, Jean-Louis Murat ?
Oui, je pense l'avoir vécu de près, et donc ça reste très mystérieux. Ça reste très mystérieux. Si on se pense produit de l'amour et que l'amour n'existe plus, après on est un drôle de produit, non. Et je pense que j'ai passé mon enfance dans ces questionnements un peu bébêtes.
Et puis ensuite, après, quand on atteint l'âge de tomber amoureux,
eh ben, je me suis attaché avec obstination à reproduire les schémas qu'avaient fournis mes parents. De façon très, très conventionnelle et très bébête. Et donc, je pense que j'ai toujours été amoureux. J'ai toujours été malheureux, mais j'ai toujours été amoureux aussi. C'est-à-dire, il me semble bien que c'est un examen de conscience tellement fort pour moi si je me réveille et je me dis, bon, voyons voir. Je vis ça avec un effroi total. Si mon cœur n'est pas fixé, je meurs. Il faut qu'il soit fixé, comme une sorte d'un petit animal sur le rocher, je ne sais quoi. Sinon, c'est la fin des haricots.
Et ça évolue avec le temps, le sentiment
amoureux. Ça mange pas. Mais non, ça n'évolue pas du tout. C'est-à-dire, je peux me retrouver à un âge canonique. Je suis aussi nigo qu'à l'âge de mes 15 ans. Voilà, ça ne change pas. Je pense que c'est ce qui nous donne un sens, presque un sens métaphysique, qui fait qu'on peut s'apprécier plus qu'on pourrait s'apprécier s'il y avait le sentiment amoureux. Je pense que la façon de se débrouiller avec le sentiment amoureux peut donner du mépris, mais peut donner aussi un sentiment de satisfaction avec ce qu'on est. Et on peut peut-être essayer dans la vie, avec les petites choses qui nous restent, d'essayer d'être un bon manœuvrier du sentiment amoureux. C'est ce que j'essaie de faire, et je chante ça.
Avec quelle aide ? Avec l'aide de la littérature, de la poésie ?
Avec l'aide de la poésie et de la guitare ou le piano, ça dépend. Mais le message poétique qui sous-tend la chanson française, comme rien d'autre peut sous-tendre l'expression à la française, c'est évidemment un univers strictement poétique. et qui se débat avec un sentiment que depuis 12e, 13e, 14e siècle, on appelle l'amour. Parce qu'avant que le mot existe, de quoi parlait-on ? Donc je vois bien comment je suis un peu limité aussi, c'est-à-dire je me retrouve prisonnier d'une culture où il y a une surutilisation du mot amour. Le mot le plus utilisé par Racine, ça vous le savez bien, on a déjà dû en parler. Et donc c'est très difficile dès qu'on est un sentimental et qu'on écrit des chansons d'amour ou des poèmes d'amour, parce que j'écris quand même plus de poésie d'amour que j'écris de chansons, on se retrouve en porte-à-faux parce qu'on parle de quelque chose dont on ne sait même pas si ça existe.
Vous avez utilisé un autre mot, Jean-Louis Murat, je suis sentimental, ça veut dire quoi, sentimental? Pour vous.
Ça veut dire que pour un sentiment assez simple et assez basique, avec un taux d'intensité pas très fort, je peux tomber de cheval.
Le réveil culturel. Jeudi, musique. Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Jean-Louis Murat sur France Culture dans le réveil culturel. Ça c'est fait. C'est un des 11 morceaux qui figurent dans son dernier album qui vient de sortir chez Piass, Baby Love. Jean-Louis Murat, comment vous écrivez, comment vous composez une chanson à partir de quelles recherches, de quelles expérimentations vous partez? Comment ces expérimentations deviennent des chansons, l'évidence d'une chanson?
Oui, bien sûr, je sais bien. Souvent, on se demande ça. Même moi, je me le demande. C'est-à-dire, je crois que, pour moi en tout cas, je pratique beaucoup l'écriture automatique et je réfléchis après à ce que j'ai pu écrire. Alors je suis toujours un peu gêné pour dire avant. La seule chose, moi, pour écrire, c'est j'ai envie d'écrire. Graphomane, c'est tout. Et après j'écris. Après je dis, oh, t'as dit ça, oh, oh. Et petit à petit, je fais une chanson à partir de ça. Je commence à chantonner, et puis je prends mes guitares ou machin, et à ce moment-là, le texte, je le mets en
musique.
Quand
on dit guitare ou machin, c'est guitare ou guitare ?
Piano, piano.
Ou piano,
ouais,
aussi.
Piano,
ouais.
J'alterne un peu.
Je suppose que vous devez faire plein d'essais. Que vous devez beaucoup écrire, vous écrivez beaucoup, Jean-Louis Murat, non, vous dites non.
Sur une chanson, pas beaucoup d'essais, parce que j'ai écrit beaucoup de chansons. J'hésite toujours à le dire. Par exemple, pour cet album-là, j'ai une sorte de crise. Et en même pas 10 jours, j'ai écrit 30 chansons. Donc je peux faire 15 heures jour. Et j'écris une chanson tous les 3 quarts d'heure à peu près. J'évite de dire ça, je dis ça le matin France Culture, parce que sinon ça fait très mauvais genre, ça, de dire les choses comme ça, mais non, je peux...
Mais comment des sentiments, des mots, de la musique vont former une chanson? Est-ce que c'est une fois, Jean-Louis Murat, que vous avez trouvé l'air, une fois que le refrain est évident, ou c'est complètement autre chose?
C'est autre chose.
C'est quoi alors?
C'est l'envie d'en faire quelque chose. C'est l'envie de, en l'occurrence là, c'est peut-être c'est l'envie ou la nécessité de produire une sorte de chant de consolation.
Qui écoute vos chansons? Qui les retouche? Qui les augmente? Qui les produit? Et comment vous voyez tout ce processus de production d'un album, Jean-Louis Murat?
Je m'occupe de tout, de A à Z. Les pochettes... Non, je m'occupe de tout, de A à Z, oui. Oui, vraiment.
Il n'y a jamais de doute, vous savez, quand une chanson est une chanson.
Je me sens pas un professionnel, c'est simplement, il y a une sorte de petite horloge intime... ou une sorte de petit baromètre qui dit « ça, ça va ». C'est-à-dire que ça, ça correspond. Tu sors une partie de la petite chose que tu portais en toi.
Il est où ce baromètre ?
Ça, ça va.
Dans votre tête, dans vos oreilles, dans votre cœur ?
Je pense que c'est ça qu'on appelle peut-être le goût et qui, à la fin, à force de s'accumuler, à force d'une accumulation de moments de goût, si on veut bien être gentil, on peut dire qu'à la fin, ça fait le style, non ?
Que vous avez trouvé tout de suite, Jean-Louis Murat? Est-ce que ce style, vous le nourrissez? Est-ce que vous le laissez se développer?
Non, je le nourris par la littérature et la poésie. Et pas en écoutant de la musique, quoi. Je suis une éponge. Mon grand œuvre, c'est mes bibliothèques, donc je passe mon temps avec mes bouquins.
Littérature française et musique américaine?
Hélas.
Jean-Louis Murat, le mot que l'on puisse dire, c'est qu'il vous a fallu du temps avant de vous installer en tant que chanteur, auteur, interprète. Vos débuts étaient difficiles. Quoique, difficile, non, c'est pas le bon mot. On dira plutôt incertain. Il vous a fallu du temps pour vous faire connaître et en même temps, vous-même, vous avez envisagé d'autres vies, d'autres pays, l'Australie pour échapper au vieux monde et même la tentation de l'Amérique quand Jack Nicholson, rencontré à Saint-Tropez alors que vous étiez plagiste, vous demande de l'accompagner aux États-Unis.
Ouais, ouais. Mais c'est incroyable. Vous voulez que je raconte ça? Non, c'était par ce pauvre monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelait... Je travaillais à Saint-Tropez. Je gagnais beaucoup d'argent en faisant la plage, la nuit, les clubs, les machins, tout ça. Et donc, c'est un photographe, je me souviens plus de son nom, c'est monsieur Hamilton, un anglais. Et donc, je traînais chez lui toute la journée, chez monsieur Hamilton, quand je travaillais la nuit. Il y avait plein de jeunes filles, tout ça. Et un soir, il me dit, tiens, tu veux pas venir avec moi chez Sénéquier? Vous voulez que j'écrive un scénario de Roméo et Juliette? J'avais 18 ans, j'étais un gamin, moi. Et le soir, il me dit, je vais vous présenter quelqu'un. Et le soir, c'était Jack Nicholson et Sam Spiegel. Et on se retrouve à quatre à manger chez Sénéquier. Et là, je sais pas, Nicholson, il flèche sur moi. Il me dit, bon, allez, je t'emmène. Toi, t'es fait pour les États-Unis. Je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Tu vas faire ton trou là-bas. Et il me dit, tu viens au bateau demain matin. Tu dis si tu viens ou non. Et j'étais jeune papa. J'y suis allé le matin et je lui ai dit, je suis jeune papa, je peux pas partir. Il a fait une drôle de tête, genre, il est idiot. Et puis voilà, ça n'a pas marché.
Et vous proposez quoi?
Il m'a dit, je m'occupe de tout. Une fois que t'es là-bas, je m'occupe de tout. Parce que Hamilton me présentait comme un littérateur, peut-être, ou je sais pas quoi. Enfin, j'aurais pu écrire des histoires, voilà. Il pensait que j'étais assez dégourdi, que j'étais tout gamin, et qu'ils se sont dit, waouh! Il essaie d'écrire Juliette pour Hamilton. Je sais pas. J'en sais rien.
C'est-à-dire que vous aviez le choix entre être un scénariste à Hollywood, l'âge d'or d'Hollywood, pendant le nouvel Hollywood, être...
J'avais un admirable petit garçon qui avait 6 mois. Qui m'attendait. Je fais quoi? Je peux me laisser un bébé de 6 mois. Enfin, ça rentre pas dans... C'est pas moi.
Mais à partir de quel moment vous sentiez que vous alliez devenir chanteur, auteur, compositeur, Jean-Louis Murat?
Quand j'étais ado, même enfant, je voulais être écrivain. Et j'ai souvent essayé, j'ai jamais eu assez confiance en moi. J'ai beaucoup écrit dans l'adolescence, de la poésie, tout ça. J'ai gagné des prix de poésie, j'envoyais à tous les concours de poésie, j'envoyais des poèmes sous des faux noms pour voir si ça pouvait plaire. Et puis, la chanson et la musique, c'est un peu un pis-aller, ouais, pour finalement. Je croyais à cette théorie que... On fait jamais vraiment ce qu'on a envie de faire. Et que je suis en sous-passion. Ma vraie passion, c'est vraiment la littérature et les livres. Alors, certainement que j'essaie de, comme disait Machin, d'instiller de la littérature, de la poésie dans la chanson. Et ça restera, hélas, ma toute petite qualité, mon apport dans la chanson française, c'est d'avoir essayé de sauvegarder la petite part de littérature ou de poésie qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un art populaire.
Vous avez grandi avec les livres ?
Oui.
De poésie ?
De tout. Mais il n'y avait pas de bibliothèque à la maison. Je me suis monté plusieurs bibliothèques. Et beaucoup à base de poésie, oui, tout à fait. Moi, j'aime l'expression poétique. C'est-à-dire que c'est l'expression poétique qui m'aime. Que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a des poètes, des fois, que j'aime pas du tout. Et il y a quelques petits trucs qui peuvent me plaire. Je suis très à la mode. Par exemple, j'aime pas Prévert, mais il y a des choses que je trouve sensationnelles. Donc c'est plutôt c'est la poésie au-delà des poètes. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
Le réveil culturel de Tufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Comme disait Tony Joe dans sa Beautiful Car. Petit gaffe et gaffe à celle qui n'aime plus la guitare. T'as vu la bête là-bas à droite, c'est pas un bison. C'est le shérif qui vient te descendre pour le monde. Si t'es venu pour les bagnoles, du calme mon gars, toi bien que je décore. Si t'es venu pour le voodoo.
C'est qui Tony Joe, Jean-Louis Murat? C'est ainsi que s'achève votre album.
Tony Joe White, Jimmy et Johnny Hooker, voilà, mes deux artistes. Ceux que j'ai le plus côtoyé, écouté et approché. Je portais la guitare de Johnny Hooker, donc j'ai mangé au restaurant avec Johnny Hooker. J'ai Johnny Hooker, ado, hein. Et puis Tony Joe White, plus impressionnant encore. Alors ça reste dans ma mythologie personnelle du petit musicien français, qui aime le blues rock, parce que c'est assez facile à jouer. Et donc, voilà, Johnny Hooker, Tony Joe White, c'est mes deux pères spirituels en art chansonnier. Ça va ?
Baby Love, le dernier album de Jean-Louis Murat. Je ne vous embrasse pas, en ce moment, on le fait pas. Je vous embrasserai pour le prochain album.
D'accord.
En tout cas, merci d'être venu.
D'accord, c'est moi qui vous remercie.
Dis qu'à mon gars, toi bien que je décore.
Culturel de Tufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Merci Jean-Louis Murat d'être passé. J'espère que cet été vous serez en concert pour jouer ces nouvelles chansons de votre dernier album Baby Love. En tout cas, merci d'être passé. Bonne journée tout le monde. J'espère vous retrouver demain à la même heure.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et si la crise sanitaire était le point de départ d'une grande remise en question dans le monde du sport ?
Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous poserons la question de l'avenir des Jeux Olympiques et des Coupes du Monde, de la capacité du football européen à se réformer face aux dérives de ses finances. Nous reviendrons sur l'engagement des athlètes contre le racisme et les discriminations. Enfin, sur la nouvelle place des femmes dans la compétition mondiale.
Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le 5 janvier, FIP fête ses 50 ans sur l'antenne. Avec des témoignages d'auditeurs, un club jazz à FIP exceptionnel avec Julien Delifiori et Henri Texier, des anecdotes sur l'histoire de FIP et des secrets de fabrication. Rendez-vous tout au long de l'année pour des moments inattendus, des expériences inoubliables. FIP va faire de 2021 une année irrésistible. FIP, une radio de Radio France.
6h30 sur France Culture, le journal par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le président de la République aura un message de vérité et de transparence ce soir, prévient le porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français à 20h, après une année marquée par la pandémie de Covid-19. Et pour ce réveillon sous couvre-feu, sans bar, sans restaurant, sans boîte de nuit, les forces de l'ordre se préparent à intervenir en cas de rassemblement non autorisé. 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France. Elle avait parmi les premiers donné l'alerte en découvrant l'apparition d'une étrange pneumonie, ce qu'on n'appelait pas encore le Covid-19, portrait du docteur chinois Haifen. Enfin, nous ferons le point sur les très longues fiançailles entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri. Le mariage est encore repoussé d'un mois, histoire d'un rachat compliqué. Que souhaiter pour la nouvelle année quand on sait que les défis seront encore très nombreux en pleine pandémie, en pleine crise économique et après une année souvent angoissante? Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français ce soir. Le président de la République s'exprimera à 20h, allocution qui sera retransmise en direct sur France Culture. Le chef de l'État devrait rester traditionnel dans la forme, un quart d'heure de prise de parole environ, mais pourrait être plus novateur dans le ton car cette année ne ressemble à aucune autre, Sophie Delpont.
Moins de verticalité, plus de proximité. Voilà pour la tonalité générale qu'Emmanuel Macron devrait donner à ses vœux, selon un conseiller qui pointe le souci d'empathie souhaité par le chef de l'État pour cette allocution. Avec un appel à l'unité, comme l'année dernière, mais dans un registre mettant davantage en avant le côté humain dans le contexte de pandémie. L'objectif majeur sera de tracer un cap de sortie de crise, montrer qu'une stratégie efficace est à présent définie, après les nombreuses critiques, notamment sur la gestion des masques au printemps. Pour cela, Emmanuel Macron devrait mettre l'accent sur la stratégie du vaccin pour alléger la pression sur les services de réanimation en espérant un retour progressif à la vie normale. Aucune annonce envers le monde de la culture, les cafés, bars et restaurants n'est prévue ce soir. Même si le chef de l'État souhaite montrer dans ses vœux que l'action ne s'est pas arrêtée malgré la crise, insiste un conseiller, les vœux de l'an dernier consacrés en partie à la réforme des retraites semblent bien loin. C'est avant tout un message d'espoir et de volontarisme que devrait délivrer Emmanuel Macron pour tenter de tourner la page d'une année 2020 plombée par la crise sanitaire.
Allocution donc du chef de l'État à 20h à écouter sur France Culture, suivie d'une émission spéciale présentée par Stanislas Vazak avec les analyses de la rédaction et de notre invité, le politologue Olivier Roucan. Ce réveillon si particulier va donc se dérouler sous couvre-feu, contrairement à celui de Noël. Pas d'exception ce soir. Il est maintenu et entre en vigueur à partir de 20h. Les autorités incitent les Français à rester chez eux en petit comité. Les grandes fêtes sont déconseillées. La place Beauvau a mobilisé de nombreux membres des forces de l'ordre pour lutter ce soir contre les rassemblements non autorisés et les éventuelles violences. Tout cela sans revoir le nombre d'agents déployés, car contrairement à ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur, un dispositif extraordinaire de 100 000 policiers et gendarmes, eh bien les forces sur le terrain seront équivalentes aux années précédentes. Stanislas Godon est le délégué général du syndicat Alliance Police Nationale.
Alors c'est sûr que l'équation, elle n'est pas simple. On ne peut pas mettre un policier devant chaque porte de pavillon ou d'appartement pour surveiller s'il y a des fêtes qui dépassent 6 personnes. Non, non, il s'agira d'abord de faire de la répression sur les fêtes qui font l'objet d'un tapage nocturne, par exemple, ou lorsqu'on aura des informations ou des personnes qui appellent pour dire que là, il y a une fête qui se fait hors cadre légal. On ne pourra pas intervenir surtout, on va faire le maximum, bien évidemment. Derrière tout ça, derrière la gestion du couvre-feu, des fêtes clandestines, il y a le reste aussi. On est toujours sous le coup de la menace terroriste. Le 31 décembre, c'est le théâtre de violences urbaines qui sont très très importantes sur le territoire, parce que les individus que l'on connaît bien dans les quartiers sensibles, croyez-moi, couvre-feu ou pas, eux, ils ne vont pas hésiter à brûler des voitures, tendre des guet-apens aux policiers. Le jour de l'an est très gourmand en effectifs pour assurer la sécurité des personnes et biens et et assurer surtout que le jour du 1er janvier, on se réveille pas avec une sacrée gueule de bois, avec des faits graves qui se seraient produits sur le territoire, et puis quelques jours après, des contaminations en chaîne avec une explosion des clusters. Là, ce serait vraiment dramatique dans le contexte actuel.
Stanislas Godon du syndicat Alliance, propos recueillis par Adrien Toffolet. Un an que le Covid-19 fait parler de lui. En Chine, c'est le docteur Ai Fen qui avait donné l'alerte à ses confrères et consoeurs en les prévenant de l'existence d'une pneumonie suspecte. Ai Fen, la chef du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, avait demandé à son équipe de porter un masque. Portrait de cette femme désormais célèbre avec Dominique André.
Le docteur Ai Fen a inscrit son nom dans l'histoire de l'épidémie en Chine. Le 30 décembre 2019, le docteur Ai a prévenu la direction de l'hôpital de la présence de plusieurs cas de pneumonie suspecte dans son service. Elle venait de recevoir le résultat de prélèvements faits sur des malades mentionnant coronavirus de type SRAS. Elle prévient alors ses collègues dans les autres hôpitaux de la ville, dont le jeune docteur Li Wanliang qui mourra du Covid. Elle se défend d'avoir été une lanceuse d'alerte. « Je suis celle qui a fourni le sifflet », dit-elle. La direction de l'hôpital l'a accusée d'avoir fait courir une rumeur et porté atteinte à la stabilité, alors qu'au même moment, le 31 décembre précisément, la Chine informait l'Organisation mondiale de la santé de la présence de 44 cas de pneumonie inconnue à Wuhan. Le docteur Ai Fen avait donné une interview à un magazine qui a été censuré sur les réseaux sociaux chinois. Au mois d'avril, après des semaines de silence, elle publiait enfin une vidéo pour rassurer tous ceux qui la croyaient disparue. Bonjour à tous. Nous sommes le 14 avril 2020, il est 14h30. Actuellement, je travaille, tout est normal. Un jour, des rues et des places en Chine porteront son nom, a écrit un internaute chinois.
Dominique André en Chine pour France Culture. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Déclaration de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a signé l'accord post-Brexit hier. Ce sera ce soir effectif à minuit. La période de transition qui a suivi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en janvier se termine aujourd'hui. Le Brexit a déchiré les Britanniques. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h avec notre envoyé spécial dans le Kent. La responsabilité de la Commission européenne est pointée du doigt par la France dans le dossier des chantiers navals. Le mariage prévu depuis 2017 entre les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire et l'Italien Fincantieri n'a toujours pas eu lieu. Paris et Rome s'étaient donné jusqu'au 31 décembre pour s'entendre sur le rachat. Finalement, il se laisse un mois de plus. Il s'agit du cinquième report. La Commission européenne doit donner son aval, mais dit attendre des informations de la part des Italiens, que les Italiens, eux, affirment avoir déjà donné. Bref, chacun se renvoie la balle, Bénédicte Robin.
L'échéance du 31 décembre, c'était un peu le bout du tunnel pour Nathalie Durand-Primborgne.
Ça fait 20 ans que je suis salariée dans cette entreprise, enfin 21 même.
Représentante force ouvrière au chantier de l'Atlantique.
Je ne sais plus à combien d'actionnaires on en est, et on a besoin de stabilité sur l'actionnariat.
De stabilité et de confiance, qui ne sera pas le cas d'après elle avec Fincantieri.
Nos craintes, elles sont liées au transfert de technologie qui a été signé entre Fincantieri et Chinois CSSC, sur le fait que nous craignons que Fincantieri ne nous pousse à être que monoproduit, de savoir que construire du paquebot. Or, le marché de la croisière est très fluctuant. Nous craignons également pour des postes qui seraient en doublon. Voilà, c'est pour toutes ces raisons, bien évidemment, Force ouvrière est opposée à ce projet depuis le départ.
Des raisons qui rendraient Fincantieri lui-même réticent à son tour. C'est en tout cas l'analyse de la sénatrice Les Républicains Sophie Prima.
Je pense qu'avec la Covid, le rapprochement avec les Chinois, ils ont peut-être d'autres nécessités de restructuration peut-être de leur outil industriel propre.
Elle préside la commission des affaires économiques qui a pu publié un rapport sur le sujet cet automne, plaidant pour un abandon du rachat et pour un plan B.
On va demander de ne pas en parler officiellement, puisque tant que l'accord est là, c'est un peu délicat. Il y a d'autres possibilités. La région, les sous-traitants veulent expérimenter un capitalisme territorial. Il y a un nombre impressionnant de sous-traitants d'excellence qui sont implantés dans la région. Il y a d'autres entreprises qui sont intéressées également pour rentrer au capital. Donc il y a d'autres solutions.
La région, mais aussi le département et le maire de Saint-Nazaire appellent même le président de la République à renoncer au rachat.
On lui doit la musique de nombreux films comme Borsalino, l'arrangement du titre La Madrague de Brigitte Bardot. Claude Bolling est mort mardi, il avait 90 ans. Pianiste de jazz, chef d'orchestre, compositeur, il était une référence en France dans le monde du jazz, disciple également de l'américain Duke Ellington. Un 31 décembre gris et pluvieux, Météo France ne prévoit pas plus de 3 degrés à Strasbourg cet après-midi, 5 à Paris et Brest, 6 à Lyon, 9 à Bordeaux, jusqu'à 11 degrés à Marseille. Prudence, ce matin, 4 départements sont toujours en vigilance orange pour des risques de crues. Les Landes, le Gers, le Tarn et Garonne, le Lot et Garonne. 6h40, vous êtes bien sur France Culture, place au Journal des Idées avec Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Margot Delpierre.
Ce réveillon du nouvel an sous couvre-feu vous inspire des pensées du repos.
Oui, c'est le bel entretien de Nicolas Truong avec le philosophe Éric Fiat dans Le Monde, le 8e de la série des penseurs de l'intime qui les a mis en mouvement, ces pensées. Pour lui, la fatigue est ontologiquement consubstantielle à l'être humain parce qu'il est pauvre en instinct et vient au monde sans le mode d'emploi. Du coup, il ne fait pas que vivre, mais exerce le dur métier d'exister. Il doit inventer les chemins de sa vie. Une tâche autant qu'un don qu'il expose à la fatigue, parfois de soi. L'auteur d'une ode à la fatigue, Éric Fiat, distingue cependant la fatigue choisie de l'épuisement subi, dont il trouve une forme paradoxale et pernicieuse dans le mode de vie confiné. La crise sanitaire a aggravé jusqu'au vertige notre époque anxiogène. Rien n'est plus défatigant qu'une joie, dit-il. Rien de plus fatigant qu'une angoisse. Éric Fiat insiste sur la dépossession de soi qu'entraîne la perte de sens dans des tâches répétitives et mornes, celles qu'impose par exemple aux soignants l'encodage informatisé des données de santé qui leur donne l'impression de n'être que les rouages d'un système gestionnaire qui les soigne toujours plus mal, tout en exigeant d'eux qu'il soigne toujours mieux. Il sait de quoi il parle, Éric Fiat, lui qui enseigne l'éthique médicale à l'université. Et d'une manière générale, plus exaltante, mais aussi plus difficile est la vie dans une époque complexe, incertaine, ondoyante et liquide. Par les nouvelles technologies et leur obsolescence programmée, l'individu postmoderne est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Sur les conséquences du confinement, il cite Giono, le manque de ce qu'il nommait la rondeur des jours, le retour reposant du même. Le sommeil en est l'expression accomplie. S'endormir, c'est descendre dans une étrange sphère d'oubli, et cette descente est indispensable à la reconstitution de la nappe phréatique du soi. Or, les troubles du sommeil sont devenus un véritable problème de société. Un adulte sur 3 en souffre et la consommation de traitements pharmaceutiques a explosé ces dernières décennies. Le psychanalyste Darian Leader a publié chez Albin Michel un livre éclairant sur le sujet « Pourquoi nous ne dormons pas ?» Il commence par dénoncer la colonisation du sommeil, aussi bien par la science du bien-être que par les calculs du management. Il rappelle que la recherche sur le sujet a été initiée dans les années 1920 par les grandes entreprises et l'armée, dans le but explicite d'optimiser l'efficacité des travailleurs et des soldats, imposant des normes comme la nuit de sommeil d'une seule traite, voire de 8 heures pour tous. C'est ainsi que s'est établi un rapport normatif et prescriptif au sommeil, alors qu'il est éminemment subjectif, et l'affaire est ancienne. Au cours des 3 journées révolutionnaires de 1830, les dénommées 3 glorieuses, en plusieurs lieux de Paris, les insurgés ont tiré sur les horloges, signe spontané d'une opposition au contrôle du temps privé. Ce qu'on éprouve comme de l'insomnie, en dehors des cas les plus graves, n'est souvent qu'un sommeil entrecoupé de veilles dont on ne mesure pas bien le temps qu'elle prend. Il est vrai que certaines pensées deviennent alors radioactives, bien qu'elles n'aient émis pendant la journée qu'un faible rayonnement, ou que, comme l'écrivait le poète Coleridge, à l'instant où la tête touche l'oreiller, ces pensées deviennent leur propre maître. Mais ce sont elles, avec des facteurs enchevêtrés, le plus souvent personnels, qui sont la cause de ce que Baudelaire désignait comme les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Pour apprendre à dormir, Merleau-Ponty donnait ce conseil qui vaut mieux que toutes les vaines injonctions à éteindre écrans et portables ou à changer de matelas tous les 8 ans. C'est dans la phénoménologie de la perception. Comme les fidèles, dans les mystères dionysiaques, invoquent le dieu en mimant les scènes de sa vie, j'appelle la visitation du sommeil en imitant le souffle du dormeur et sa posture. C'est ainsi que peut se poser le sommeil sur cette imitation de lui-même. Quand on se prépare à dormir, on fait comme si on dormait déjà, ajoute Darian Leader, qui évoque la mémoire prégnante du nourrisson que nous avons tous été. Pour qu'il s'endorme, la proximité avec le corps de sa mère et la synchronisation sur son rythme respiratoire peuvent être essentielles. Pour bien dormir, il faut être plusieurs, en présentiel ou mémoriel. Prendre un somnifère, c'est comme demander une autorisation d'assoupissement à une figure parentale. Bon réveil, Antoine Dulster. Il est 6h45 sur France Culture et c'est à vous pour les enjeux internationaux. Bonjour.
Bonjour, Jacques Munier. Alors, on va partir en direction du Chili aujourd'hui pour le quatrième temps. Voilà, ce sera le quatrième temps de cette semaine consacrée au grand dossier de l'année 2021 dans les enjeux internationaux. Symboliquement et juridiquement, c'est une révolution qui va avoir lieu au Chili en cette année 2021, donc, avec les travaux d'écriture de cette nouvelle constitution. Rappelons que la loi fondamentale en vigueur actuellement au Chili, dans le pays, a été adoptée sous Pinochet. Le principe de cette nouvelle constitution a été acté par référendum le 25 octobre dernier. C'était un an après un mouvement de contestation sociale et politique inédit dans l'histoire du pays. Le texte constitutionnel sera rédigé par une assemblée spécialement élue pour cela, une assemblée constituante qui sera désignée en avril prochain et qui aura la très lourde tâche de traduire en actes les espoirs de changement suscités dans le pays. Bonjour Franck Godichaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en civilisation hispano-américaine à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès et vous êtes chercheur au laboratoire FRAMESPA, France, Amérique latine, Espagne. Alors Franck Godichaud, pour être concret peut-être pour commencer, quelques mots sur la façon dont cette constituante va se mettre en place et travailler. Le vote a lieu le 11 avril prochain, le vote qui désignera donc ses délégués constituants. Qui pourra se présenter à cette charge de rédacteur de la constitution au Chili et comment aura lieu ce vote?
Alors c'est un vote qui va avoir lieu sur le modèle du système électoral législatif chilien. Donc il y a une vingtaine de districts. Les futurs constituants et constituantes se présenteront par liste, au moins 2 personnes, mais en général plus, puisqu'il y aura entre 3 et 8 élus constituants donc par district. Et donc il va y avoir une campagne électorale, d'ailleurs, qui va se faire en même temps que les élections municipales et régionales. Et il y a la possibilité de se présenter en tant qu'indépendant, mais aussi sur la liste des partis. Ce sera d'ailleurs la majeure partie des candidats. Et alors, on peut aussi juste rappeler que ce processus constituant, il a été acté, validé, comme vous l'avez souligné, par un référendum qui a lieu en octobre.
Alors, Franck Godichaud, c'est un point important que vous soulevez. Cette désignation des délégués constituants, elle aura lieu le même jour qu'un autre suffrage. Ça peut déteindre cette connotation politique des autres suffrages prévus ce jour-là sur ce que sera la réalité de ce processus constituant?
En tout cas, c'est ce que plusieurs observateurs, hein, y compris hommes politiques, femmes politiques, soulignent, c'est que, en fait, c'est une élection exceptionnelle qui est donc issue de ces grandes mobilisations sociales depuis un an. Et en même temps, un des effets de cette élection qui se fait en même temps que d'autres, c'est essayer de la réintégrer comme une élection parmi d'autres et remettre au centre, selon certains, en tout cas les vieux partis ou les partis parlementaires qui sont très largement décriés par la rue. Donc là, il y a eu un très gros débat sur ce point. Et en même temps, le processus constituant, on parle d'une convention constitutionnelle, pas d'une assemblée constituante, il a été lui-même réglé, selon certains même pacté, par un accord qui a lieu en novembre dernier face à la mobilisation populaire. Donc c'est pas une assemblée constituante totalement
au sens
libre,
souveraine. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà sur la composition de cette fameuse convention ? Donc, puisqu'il faut être précis, vous avez raison sur les mots qu'on emploie. On sait qu'il y aura 17 représentants autochtones, donc issus des minorités du pays. On peut citer par exemple les Mapuches, qui sont le peuple autochtone principal du Chili. 150 membres au total, et c'est une convention qui sera également paritaire, Franck Godichaud ?
C'est ça. Cette parité, d'ailleurs, elle est, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour la démocratie chilienne. Ça montre la force aussi du mouvement féministe chilien. Et ça serait la première fois dans l'histoire mondiale que s'ouvre un processus constituant totalement paritaire. D'ailleurs, les listes des futurs députés constituants, constituantes, à chaque fois, ce sera d'abord une femme et ensuite un homme qui seront présentés aux électeurs. Donc, c'est une constituante totalement égalitaire de ce point de vue, femme-homme. Il y aura 17 représentants autochtones. Ça a été le fruit, là encore, de très dures négociations au Parlement. Et donc, c'est en ce sens quand même une bonne nouvelle pour la représentation, disons, du peuple chilien et pour la composition de cette assemblée qui va donc fonctionner pendant 9 et 12 mois.
Oui, parce qu'elle pourra être renouvelée pendant 3 mois supplémentaires, une seule fois, je crois. Voilà, ce sera le temps prévu pour ces travaux. Vous parlez de représentativité, Franck Godichaud, représentativité du peuple chilien. On peut se demander quand même, au regard de ce qui s'est passé depuis 2019 dans le pays, si les forces sociales qui ont été à l'œuvre dans le mouvement inédit de contestation qu'a connu le Chili seront également représentées. Et là, c'est beaucoup plus incertain. Comment traduire en acte, dans ce processus constituant, les aspirations populaires, notamment, qui se sont exprimées pendant ce mouvement de contestation sociale, un mouvement qui était parti d'une révolte contre le coup de la vie, mais donc un certain nombre d'éléments spécifiques de la vie politique chilienne avaient été très contestés dans la rue, le poids du privé contre les services publics inexistants, par exemple. Comment ces aspirations pourront s'exprimer dans le processus constituant ?
Et c'est là la grande difficulté et aussi peut-être les limites de ce qui va commencer en avril prochain. Les demandes sociales sont très fortes, sont nombreuses. C'est tout l'héritage d'une certaine manière de la dictature de Pinochet, mais aussi de 30 années d'une démocratie très limitée finalement et d'un modèle néolibéral parmi les plus radicales de l'Amérique latine qui ont été remis en cause et très massivement. Et dans tous les domaines, en fait, il y a des demandes sur les services publics, l'eau, la santé, l'éducation, et plus globalement, évidemment, sur la relation entre la société et l'État, puisque c'est ce que vient réguler la Constitution. Et de ce point de vue, il y a de nombreux doutes. Est-ce que cette convention constitutionnelle sera vraiment représentative de toutes ces demandes, alors que les grands partis annoncent déjà qu'ils aspirent vraiment à dominer cette convention, et aussi parce que le diable est souvent dans les détails. Juste un exemple, pour valider chaque article de la future constitution, il faudra une majorité qualifiée des 2/3, qui va donc donner une minorité de blocage
d'un tiers.
Voilà, c'est ça, disons, aux secteurs les plus conservateurs, à la droite libérale et néolibérale.
La gauche aussi, Franck Godichaud, aura cette minorité de blocage. Et l'état des rapports de force politique actuellement au Chili va se retrouver dans les travaux de cette convention ? Dans quelle mesure ça va être le cas ? Vous dites 2/3, donc c'est la majorité requise pour faire adopter des articles constitutionnels. Donc ça nécessite forcément un travail entre les constituants, un travail de consensus extrêmement important. Mais ça peut être aussi un jeu à somme nulle, puisque la gauche aussi pour avoir, et les forces progressistes également auront cette minorité de blocage.
Oui, effectivement. Alors, quand je dis une minorité de blocage de la droite, ou plutôt des secteurs conservateurs, parce que c'est pas que la droite qui était hostile à l'absence de changement constitutionnel, si on prend en compte les rapports de force actuels au Parlement, qui risquent de se reproduire en partie au sein de la Convention. Il y aura donc des secteurs qui pourront bloquer systématiquement des changements importants. Ça va donc signifier d'énormes négociations et peut-être une nouvelle constitution qui ne sera pas si révolutionnaire, aussi transformatrice que ce qui a été prévu initialement, en tout cas par les mobilisés, par le mouvement social.
Alors Franck Godichaud, vous dites force conservatrice, mais est-ce qu'il est même dans l'intérêt de ces forces conservatrices de maintenir en l'état une constitution héritée des années Pinochet et qui est vécue comme telle par le peuple chilien? Est-ce que c'est même dans l'intérêt de cette partie conservatrice de la société chilienne?
Eh bien, disons qu'un secteur du Parlement et des partis politiques continue à affirmer très fortement que la constitution de Pinochet était la meilleure possible pour le Chili. D'autres, au contraire, pense effectivement qu'il va falloir faire bouger, moderniser la lettre constitutionnelle, ce qui régule donc la forme de l'État, mais pas vraiment dans le sens qui a été demandé depuis un an par les mobilisés. Donc c'est là où on va voir jusqu'à quel point il va y avoir une transformation. Par exemple, les traités internationaux, et notamment les traités de libre-échange, ne pourront pas faire partie de ce qui sera discuté par cette convention constitutionnelle.
Alors, qu'est-ce qui peut être attendu dans justement cette future constitution, au-delà des aspects purement institutionnels, la désignation peut-être des pouvoirs publics, mais en matière d'éducation, de santé, des droits sociaux, ça c'est quelque chose qui est possible, qui peut intégrer la future constitution?
Alors c'est quelque chose qui est très attendu, ça sera pas intégré de manière détaillée, mais en tout cas qui est une orientation générale sur la place de l'État dans le modèle chilien. Aujourd'hui, donc, on est dans un État dit subsidiaire, qui intervient très très peu dans la société et l'économie. Donc là, il y a un espoir de retour d'un État sur la santé, sur l'éducation, sur la question de l'eau, par exemple, qui est quasiment entièrement privatisée au Chili. Et la question des ressources naturelles aussi est très très importante. On a la plus grande réserve de cuivre au monde. Et là, il y a de nombreux doutes. Est-ce qu'il va y avoir des avancées en ce sens? Et ce sera un des points de peut-être de crispation, de tension dans les discussions de la constituante.
Eh bien, on suivra ce dossier en tout cas attentivement dans les enjeux internationaux et sur l'antenne de France Culture. Merci beaucoup Franck Godichaud. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en civilisation hispano-américaine à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès, et chercheur au laboratoire FRAMESPA, France, Amérique Latine, Espagne.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est l'un des plus grands romans d'aventure du 19e siècle. Le Capitaine Fracasse, sur France Culture.
Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris.
Vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Déclaration d'amour à la langue, le style précieux des salons comme l'argot des tavernes. Suivons-le, vent debout, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver. Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour Antoine Dulster, bonjour à toutes et à tous.
Alors, dans votre billet d'humeur, aujourd'hui, le dernier billet d'humeur de cette année 2020, on a toujours besoin d'un plus grand que soi.
Et mon fils a eu un nouveau téléphone portable à Noël. De mémoire, le précédent aura tenu 3 ans. 3 ans, soit une éternité à l'échelle de la technologie des smartphones. La carte SIM, par exemple, ce bout de plastique qui nécessite d'avoir des doigts de pianiste pour l'insérer sans l'endommager dans le compartiment prévu à cet effet. Cette carte est devenue encore plus petite que dans les précédents modèles. De la normale, on est passé à la mini, de la mini à la micro, puis de la micro à la nano. C'est tout juste, il ne faut pas utiliser une pince à épiler pour la manipuler. Ma fille, elle, s'est vue offrir des écouteurs sans fil. Comme son nom l'indique, l'écouteur sans fil se distingue de ses prédécesseurs par ce qu'il a en moins, à savoir des fils qui pendouillent autour du cou. Ici, on est davantage proche de l'appareil auditif, ou plutôt du bouchon d'oreille. Bien logé dans le pavillon, il communique directement en Bluetooth avec la carte nano SIM de votre smartphone. L'histoire de la technique, en particulier celle de l'électronique, se confond avec ce processus de miniaturisation. Les vieux films nous renseignent sur la taille des premiers ordinateurs. Il fallait plusieurs mètres carrés au début pour en loger un seul. Au fur et à mesure qu'ils se sont multipliés et ont gagné en puissance, ils ont rétréci et il en va des ordinateurs comme des appareils pour propager le son. De l'inamovible TSF encastré dans le mur, du salon au smartphone et à ses écouteurs sans fil. Cette course vers l'infiniment petit a pourtant quelques inconvénients. D'abord parce que dans le même temps, notre morphologie a peu évolué. À part me faire suer pendant 10 minutes, je ne vois pas très bien l'avantage qualitatif que représente la nano-SIM sur la mini, déjà suffisamment petite. Quant aux écouteurs, je viens de lire un article qui raconte qu'au Japon, un millier d'entre eux ont été retrouvés sur les voies du réseau ferré à Tokyo. Pour peu que l'appareil soit mal positionné dans l'oreille, il tombe par terre et si c'est sur les rails, eh bien il y reste. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est qu'un des opérateurs du réseau ferroviaire japonais a confié à une société le soin de développer un aspirateur spécial pour récupérer les écouteurs sans fil échoués sur les voies. Comme quoi, on a toujours besoin d'un plus grand que soi.